Bon week-end de l'Ascension qui, évidemment, impacte la présence des uns et des autres. Mais nous sommes là ensemble pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole, pour nous bénir mutuellement. Soyez les bienvenus. Et je voulais démarrer ce culte avec une réflexion à partir d'un texte que j'ai lu cette semaine, qui m'a vraiment interpellé. Alors c'est un texte d'un auteur inconnu, figurez-vous, du XVIIe siècle. C'est ce que disait le livre dans lequel j'ai attrapé cette pépite. Et je vais vous le lire, donc je demande votre attention, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on soit vraiment concentré sur ce que le Seigneur veut nous dire et nous révéler ce matin, parce que c'est un texte qui est riche, qui est bénissant, et qui vraiment peut nous encourager et nous exhorter. Alors je vous le dis. Voici un homme né dans un village inconnu, enfant d'une paysanne. Il travailla chez un charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis pendant 3 ans, il devint prédicateur itinérant. L'opinion du peuple soudain se retourna contre lui. Ses amis prirent la fuite et l'abandonnèrent. Il subit une parodie de procès. Il fut cloué sur une croix entre 2 voleurs. Une fois mort, on le décrocha et on le coucha dans une tombe qui n'était pas la sienne, et ceci grâce à la pitié d'un ami. Et pourtant, je suis absolument sûr de moi quand je dis que toutes les armées qui ont jamais défilé, que tous les parlementaires qui ont jamais siégé, et que tous les rois qui ont jamais régné, tous mis ensemble, n'ont jamais affecté la vie de l'homme sur cette terre autant que cette unique vie à elle seule. Il est étonnant ce texte, il est bourré de paradoxes. On est face à une vie, et dans ce texte, tout semble finalement décrire une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ou en tout cas rempli d'humilité, voire d'humiliation. Il n'y a pas de naissance royale, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de position politique, il n'y a aucune reconnaissance humaine, ou très peu, et pourtant, il y a un impact éternel. C'est ça le paradoxe de Dieu, c'est que les hommes, ils regardent à ce qui brille, ils regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, il peut changer le monde à partir de quelque chose qui paraît faible. Qui paraît faible. Parce que les apparences, oui, elles sont trompeuses. De cette faiblesse apparente, parce que ce n'est qu'une faiblesse apparente, hein, évidemment, va émaner une puissance qui va finalement continuer à... qui va marquer les siècles et qui va continuer à le marquer encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Jésus-Christ, il change des vies. Parce que oui, Jésus, il a vécu seulement 33 ans. Il a eu 3 ans de ministère. Et humainement parlant, sa vie, elle ressemble plus à un échec qu'à une réussite. Il est trahi. Il est abandonné, il est jugé, il est humilié, il est cloué sur cette croix qui est un symbole de honte absolue. Et aux yeux du monde, tout semblait terminé. Si on s'arrête à la croix, tout semble terminé. Mais au contraire, tout a commencé à ce moment-là. C'est là que tout a commencé. Parce que la croix, les hommes, ils la voient comme une défaite. Et nous, on la voit comment? Comme une réalité qui est le plus grand triomphe de l'histoire. Est-ce qu'il y a un homme sur cette terre qui a autant impacté le monde que Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un homme qui a autant impacté le monde que Jésus-Christ? Combien de royaumes sont tombés? Combien d'empires ont émergé et ont été détruits? Combien de rois, de gouvernants, d'empereurs n'ont laissé une trace finalement que dans les livres d'histoire? Innombrables. Ils ont peut-être impacté une vie à un moment donné, de manière terrestre. Mais ils n'ont jamais impacté autant que Jésus a impacté et transformé. Parce que Jésus, ça ne s'est pas arrêté à cette croix. Il est ressuscité. Il a transformé des vies. On l'a vu dans le déroulé de ce qui s'est passé avec l'Église primitive et puis cette explosion. Et aujourd'hui, des siècles et des siècles après, il continue encore à transformer des vies. Parce que Jésus, lui, il n'est pas venu pour influencer l'histoire. Il est venu pour sauver des hommes, pour nous sauver. Et il veut encore en sauver. Et il veut encore en sauver. L'histoire, elle n'est pas terminée. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il est chaos. On le voit, hein ? Ce monde, il est chaos. Et les hommes, ils cherchent quoi quand on ouvre nos chaînes d'infos en continu, hein, ils cherchent évidemment des solutions humaines. Hein. Mais est-ce qu'il y a encore des gens, parce que comme moi, vous avez sans doute vous avez un entourage, vous avez des gens qui côtoient vos vies quotidiennes. Est-ce que ces gens-là, ils croient aux solutions humaines qui sont en train d'être amenées? Est-ce que vous voyez des gens qui sont positifs, qui sont optimistes sur ce qui est en train d'advenir, sur ce que les hommes, les politiques, les gouvernants, les dirigeants sont en train d'implanter? Moi, je vois pas ça. Je vois aucun positivisme. Je vois aucune espérance. Zéro. Et pourtant, c'est ce qu'on voit. Est-ce que ce n'est pas là une formidable opportunité pour témoigner de Jésus, qui, lui, il n'est pas venu bâtir un système terrestre. Il n'est pas venu bâtir un système terrestre. Quand on fait une rétrospective sur ce qu'il a vécu, comment il a vécu, et ce qui est advenu après, il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est pas terrestre, ça. C'est pas humain. Il n'y a rien d'humain dans ce que Jésus nous a légué, dans cet héritage qu'il nous a légué. Il est venu ouvrir un chemin vers le Père. Et ça, moi, ça m'interroge. Qu'est-ce qui donne du poids à ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce que je vais laisser? Est-ce que c'est ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que c'est ça qui est important à laisser comme héritage? Non, ce qui donne du poids à ma vie et ce qui fait que ma vie, elle devient grande, c'est quand je la laisse entre les mains de Dieu. Et que ma foi, elle offre et elle m'offre au milieu de ce chaos une paix intérieure. Et que cette paix intérieure, elle puisse rayonner, elle puisse parler, elle puisse interpeller, elle puisse interroger. C'est cette paix qui surpasse toute intelligence, toute stratégie humaine. Cette paix qui nous vient du Saint-Esprit. Et cette paix, cette joie au milieu du chaos, elles vont interpeller. Je veux le déclarer, elles vont interpeller. Que l'Église de Christ, dans ces temps si perturbés, si chaotiques, elle soit un havre, un refuge de paix, un refuge de joie qui va interpeller. Parce que parfois, on croit que notre vie, elle est trop petite. Elle est trop petite pour que Dieu s'en serve. Mais regardons l'exemple de Jésus. Regardons son exemple. Quand les hommes pensent qu'il faut être grand pour être puissant, qu'il faut du pouvoir, Dieu, il raisonne pas comme ça. Dieu, il raisonne en termes d'humilité, de sacrifice. Bethléem était petite. Nazareth était méprisée. La croix était un symbole de honte. Et Dieu, pourtant, il a changé le monde à partir de ça. À partir de ça. Alors ce matin, ce texte, il nous rappelle que Dieu, il n'a pas besoin de ce que le monde appelle la grandeur pour accomplir ses projets, pour accomplir ses desseins. Dieu n'a pas besoin de ça. Il cherche juste des cœurs disponibles, il cherche juste des vies qui sont abandonnées entre ses mains. Des vies qui sont abandonnées entre ses mains. Des hommes et des femmes qui acceptent de dire « Seigneur, utilise ma vie. Utilise ma vie pour influencer ce monde. Utilise ma vie malgré mes petitesses, malgré mes étroitesses, malgré ce qui peut sembler faible et insignifiant. » Ça a du poids, ça aussi, ça a du poids. Parce que ce qui semble insignifiant aux yeux des hommes peut devenir puissant dans les mains du Seigneur. Ça peut devenir puissant. Ayons cette confiance et cette assurance que Dieu peut agir aussi dans nos petitesses et aussi dans nos étroitesses. Alors Seigneur, on veut ce matin entrer dans ce culte, Seigneur, que nous allons te rendre. Conscient, Seigneur, que oui, tu n'es pas venu sur cette terre comme un simple homme, Seigneur. Tu es venu et, Seigneur, tu es celui qui a été rejeté, mais tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui a été humilié, mais tu es le Roi des Rois. Alors, Seigneur, vraiment, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, avoir cette confiance et cette assurance que tu agis, même si nous ne voyons pas les choses. Même, Seigneur, si nos yeux parfois voient ce qui semble insignifiant et se découragent, Seigneur, non. Par ton esprit, tu nous dis que par ces petites choses, Seigneur, tu en fais de grandes. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans ce culte maintenant avec un cœur reconnaissant. Nous voulons que notre louange vraiment réponde, Seigneur, à ta grandeur. Et je vous laisse avec un verset dans Apocalypse 5:12 qui dit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.